Et salut à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On est samedi midi 30, comme à chaque fois. On va parler de l'actu du Paris Saint-Germain. On a pas mal de sujets, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Luis Enrique. La minute tactique, comme d'habitude, on est avec Dryas, on est avec Basto. Il y a Rekoba qui va nous rejoindre, il y a Kevzor aussi qui va nous rejoindre. Et peut-être Gâteau. Alors, la première question, et salut à toi Kevzor.
Salut tout le monde.
La première question, c'est Nuno Mendes et son opération. Après les cas Neymar, Mukiele et maintenant Nuno Mendes, on a fait une révolution sur le terrain, dans l'effectif. Est-ce qu'il ne faut pas faire une révolution dans le staff médical aussi, Dryas?
Bah, ce qui est chelou, c'est qu'en France, on a en plus, tu sais, on a les spécialistes qui ont opéré les Ronaldo, les machins, les bidules. Donc normalement, la compétence, on l'a en France. Mais en effet, on enchaîne les tuiles. Après, tu as toujours le miroir déformant. Tu sais, quand c'est ton club, tu vois les blessures, tu vois beaucoup plus les blessures que quand c'est les autres clubs, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y avait eu la cacophonie autour de Pastore qui était complètement hallucinante, où y a, au niveau de la détection, on avait mis 150 ans. Neymar, ça s'explique aussi autrement. Je pense pas que seul le staff médical était responsable parce que son hygiène de vie était pour quelque chose. Mais Mendes, on a l'impression donc qu'on se retrouve un petit peu, pas dans les mêmes proportions, mais un peu dans un cas de Pastore où on hésite, où on machin, où on truc, où on détecte mal. Et il y a un moment où tu es obligé de te poser la question de la compétence du staff médical et est-ce qu'il faut le remplacer? Il semblerait que oui, quoi.
D'accord. Avant de passer la parole aux autres, je tiens à vous remercier pour le nombre de likes sur le débrief Marseille. Comme d'habitude, quand il y a 750, il y a le bon d'achat Nike qui vous est offert. Donc, on va faire le tirage au sort tout de suite. Je vais juste me remettre sur le bon écran si possible. Voilà, tirage au sort. Et encore une fois, si vous faites 700 likes sur ce live, du coup, il y en aura un autre à gagner. Et c'est Panam J qui a gagné. Très content que ce soit toi, d'ailleurs, parce que tu es là depuis très longtemps sur la chaîne. D'ailleurs, tu es abonné à la chaîne. Donc, merci à toi et likez pour essayer de gagner le prochain bon d'achat sur le Nike Store. Et Basto, on t'écoute.
Déjà, on a changé de médecin cette année puisque le nouveau médecin est arrivé début août. Donc, on a déjà changé les structures du staff depuis le médecin de Pierre-Avière. Ce n'est plus du tout les mêmes. Sur Nuno Mendes, je pense que c'est un problème plus global. On a un joueur qui a peut-être aussi refusé. Il l'a dit, hein, il a forcé pour faire la Coupe du Monde. Donc, il a forcé sur un tendon mal cicatrisé. Ensuite, il y a eu un problème de staff, non pas forcément médical, mais sportif, puisque Galtier et son staff ont forcé et pour Nuno et pour Mukiele. Et on connaît la suite pour les deux. Après, on sait que c'est la blessure de Nuno. Généralement, c'est opération parce que c'est très, très dur sans opération de cicatriser. Donc, ce que je ne comprends pas, à la limite, c'est pourquoi on ne l'a pas opéré en août, quand on a fait la reprise et perdre 3 mois de nouveau. Peut-être que le joueur ne voulait pas. Ça, j'en sais rien. Mais ce n'est pas que le staff médical qui décide. Il y a aussi le joueur qui donne son avis.
Alors, avant de passer la parole à Kevzor, il faut juste préciser aussi que le staff, peut-être, a voulu essayer de voir si la solution, la lésion ne se serait pas réglée elle-même avant d'opérer. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont attendu. Et en septembre, ils ont vu que du coup, ce n'était pas possible. Vas-y, Kevzor.
Ouais, du coup, en fait, Basto a dit tout ce que je voulais dire. En fait, c'est que on sait que l'année dernière, déjà, la gestion de Galtier a été catastrophique sur le cas des blessures de certains joueurs. Et notamment ceux de Mukiele et de Nuno Mendes. Donc, à partir du moment où on sait que tu as un joueur blessé, que tu le fais forcer, ben forcément, ça ne peut qu'aggraver la chose. Derrière, après, il est vrai qu'on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants concernant cette blessure. Parce que, comme tu l'as dit, Basto, on ne sait pas si le joueur voulait se faire opérer, si c'était uniquement le staff qui n'a pas voulu l'opérer, etc., etc. Donc, il faudrait vraiment avoir tous les tenants et tous les aboutissants. Mais force est de constater qu'il y a quand même pas mal de péripéties dans ce staff médical qu'on a depuis X années. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve à chaque fois à devoir opérer des joueurs qu'on aurait dû opérer dès le départ, qu'on n'a pas voulu opérer au départ. Voilà. Donc, et ça, depuis QSI, il a cité pas mal de joueurs, mais on l'a fait aussi avec Kurzawa, on l'a fait aussi avec Verratti, au niveau des longs, de toutes les blessures. De toutes les plus balgies qu'il y a eu. Donc, et je pense qu'il y a encore d'autres noms que je n'ai pas en tête. Mais il est vrai que le staff médical est pour le moment, pour moi, je ne dirais pas incompétent, mais pas à la hauteur des exigences que l'on souhaite, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de tuiles.
Je vais passer la parole à Rekoba. Juste, Kevzor, je vais t'inviter à soit t'arrêter ou à attendre que tu rentres chez toi, parce que ton son, il n'est pas terrible.
Donc, ouais, j'arrive, j'arrive, ça. Dans 30 secondes. J'arrive dans 30 secondes.
Vas-y, bah, rentre tranquille. Vas-y, à toutes. Vas-y, Reko.
C'était quoi le sujet initial?
Oui, pardon, t'étais pas là. La question, c'est Nuno Mendes, après tout ce qui s'est passé ces dernières années, est-ce que pour toi, le staff médical doit prendre la porte comme tous les joueurs qu'on a virés aussi qui n'étaient pas à la hauteur?
Oui, pour moi, oui. Bah, déjà, bonjour à tous. Mais ouais, pour moi, oui, parce que bon, y a déjà eu une partie qui a été changée l'année dernière, je crois, ou il y a un an et demi. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Déjà, en fait, tu regardes simplement les joueurs quand ils arrivent au PSG, ils ont un historique de blessures qui, quand ils arrivent au PSG et après plusieurs années au PSG, n'a rien à voir. Tu vois qu'avant, ils n'étaient pas du tout aussi blessés qu'au PSG. En plus de ça, chaque fois qu'on arrive dans les moments importants, en février-mars, on a tout le temps des joueurs absents et des joueurs importants qui sont absents. Kevzor en parlait, il y a pas mal de joueurs où on s'est trompé sur des diagnostics, où on a perdu du temps. Aujourd'hui, c'est encore le cas avec Nuno Mendes. Donc, à un moment donné, on a remis en question la direction, on a remis en question les joueurs, on a remis en question maintes et maintes fois l'entraîneur. Mais pour moi, on doit remettre aussi en question le staff médical. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une preuve supplémentaire qui montre qu'il est défaillant et donc il va falloir le changer. Pour moi, c'est une évidence.
Gâteau.
Déjà, messieurs, bonjour. Voilà, j'ai des pépins avec mon PC. J'espère que vous allez bien. Non, mais je vais rejoindre Koba, hein, parce que c'est pas question que le staff est médical et est incompétent. C'est que c'est pas à la hauteur des exigences d'un grand club. Et nous, on souhaite devenir un grand club sur l'aspect européen. On se doit d'avoir un staff médical correspondant à nos ambitions, aussi simple que ça.
Très rapidement, mec.
Vas-y, Dries.
Déjà, je voulais réagir à ce que disait Vincent. Là. Oui, c'est vrai que Neymar, c'est des chocs, mais la capacité à encaisser les chocs tient aussi de ton hygiène de vie, et la capacité à te remettre et la récupération tient à ton hygiène de vie, donc tu peux pas faire abstraction de l'hygiène de vie. Il y a juste un truc qu'on n'a pas nommé, c'est l'impact de la Ligue 1, le fait que ce soit physique. Et moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que non, parce que quand tu vois les matchs de Ligue des Champions, mais en tout cas, on n'a pas nommé. Et du coup, je me demandais pour vous si l'impact de la Ligue 1 pouvait expliquer pour partie la quantité de blessures qu'on peut constater dans le club.
Vas-y, Kev.
Ouais, vous m'entendez mieux là?
Ouais.
Donc en fait, concernant la Ligue 1, en fait, concernant les blessures musculaires, ça n'a rien à voir avec des impacts de Ligue 1, de Ligue des Champions, quoi que ce soit. Une blessure musculaire, c'est uniquement dû à des courses, à une accélération, quoi que ce soit. Donc là, ce n'est pas le championnat qui fait que Nuno Mendes, Mukiele, que d'autres joueurs, entre guillemets, se sont blessés. Par contre, les blessures que Mbappé avait subies en finale contre Saint-Etienne avant le Final 8, ça, bien sûr, hein, que c'est la Ligue 1 et c'est des attentats que certains subissent régulièrement ou pas, quoi.
Ok, les gars. Bah, par rapport à Nuno Mendes, il va y avoir une certaine problématique. C'est le cas Lucas Hernandez qui avait déjà dit au préalable qui dépannait sur le côté gauche, mais que, entre guillemets, il ne voulait pas passer la saison à faire arrière-gauche. Force de constater que Nuno Mendes n'a pas de remplaçant, parce que si on enlève Lucas Hernandez, je ne sais pas qui est-ce que vous voulez mettre, il y aura peut-être la solution Marquinhos, mais lui aussi, il va commencer à se plaindre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère Lucas? Est-ce que, peut-être, je ne sais pas, on fait monter Serif Naga pour le faire souffler un petit peu? Comment vous voulez gérer le cas Lucas Hernandez? Je t'écoute, Basto.
Déjà, dans la presse du jour, ça annonce que Paris cherche un compos à activer des réseaux et cherche un latéral gauche pour janvier. Donc, on aura peut-être une solution dans quelques mois. Mais en attendant, je pense qu'il y a plusieurs solutions. C'est vrai que pour le moment, il ne fait pas rentrer Kurzawa. Hein, Luis Enrique, c'est soit Hakimi qui a joué à gauche à Toulouse à un moment donné, soit Marquinhos. Il y a Mukiele qui revient. On peut très bien avoir soit Mukiele, soit Hakimi à gauche avec l'autre sur l'aile droite. Je pense que c'est comme ça qu'on va faire sur les trois prochains mois. Et après, il y a une autre solution. Si jamais on avait un milieu absent, peut-être un changement de système, ce serait jouer à trois derrière avec Barcola en piston gauche. Mais je pense que ça, c'est plus secondaire dans l'esprit d'Enrique, parce que je ne suis pas sûr qu'il va jouer en défense à trois.
Rico.
Bah, on a pu le voir face à Marseille. On a vu Barcola piston gauche, donc ça peut être une solution. Après, personnellement, je ferai confiance à Serif Naga parce que, bah, parce qu'il est jeune, parce qu'en Ligue 1, pour moi, ça peut suffire, surtout si à côté, tu as une équipe qui collectivement s'y retrouve bien, et défensivement, c'est cohérent. Un joueur s'acclimatera beaucoup plus facilement, surtout un jeune, dans ce collectif-là, plutôt que si tu faisais monter Serif Naga l'année dernière, par exemple. Il a montré de très belles choses en pré-saison. Nuno Mendes est arrivé, a été un crack très très tôt. Je ne vois pas pourquoi Serif Naga ne pourrait pas réussir dans ce Paris Saint-Germain-là, bien qu'il soit jeune et peu expérimenté. Pour moi, à partir du moment où il a du potentiel, il est déjà très bon et il l'a montré, je pense qu'on pourrait lui faire confiance, au moins en Ligue 1. Après, en Ligue des Champions, on pourrait, pourquoi pas, bricoler. Basto en a parlé, Mukiele pourrait dépanner à gauche, Hakimi a déjà dépanné à gauche. Surtout Hakimi dans ce rôle un petit peu qui monte un peu au milieu, je pense qu'à gauche, ce ne serait pas forcément déconnant. On l'a déjà vu avec Cancelo, par exemple. Donc, non, il y a plusieurs solutions. Il y a Barcola, il y a Naga, il y a Hakimi ou Mukiele. Mais je ne suis pas sûr que d'aller prendre un arrière-gauche comme ça en janvier, alors que Nuno reviendrait aller un mois ou deux plus tard, soit une vraie solution, sachant que tu as quand même du banc. Et évidemment, je ne parle pas de Kurzawa, ça ne sert à rien.
Gâteau de Raya, c'est ensuite
Moi, Kurzawa, moi, j'en parle. Hein. Pour la
Kev.
Ligue 1, je suis désolé, Kurzawa. S'il a été conservé, il a été conservé pourquoi? C'est bien validé par le directeur sportif et par le coach. Et pourquoi
Ah,
est-ce que,
qu'il
même, ne
passait
serait-ce
le
que
banc,
pour la
Gâteau.
Ligue 1, 7
Non,
matchs
mais
en 2
qu'il
ans?
avait une offre.
Sept
Non,
matchs
mais
en
c'est.
2 ans. Mais moi, 7 matchs en 2 ans, c'est pas grave. Et au moins, est-ce que là, il est opérationnel? Il me semble qu'il est opérationnel, ce monsieur.
Et les matchs de prépa, il était à la rue quand même.
Ouais, mais ça, c'est des trucs qui. C'est significatif, c'est vrai. Peut-être qu'il n'est pas au niveau, mais pour des matchs de Ligue 1, c'est des matchs pour faire tourner avant la Champions League. Des matchs où, par exemple, là, on affronte Clermont cet après-midi. Des matchs comme ça, il y a lui, plus Hakimi qui peut jouer à gauche. On va pouvoir dépanner à la rigueur. Hernandez aussi, il va falloir lui parler. Tu dis, bon, toi aussi, tu es un grand joueur. Il faut que tu respectes aussi, tu es venu dans certaines conditions, là on est en difficulté, c'est là où on compte sur toi. Tu lui expliques aussi qu'on a besoin de lui en tant qu'arrière-gauche. Maintenant, s'il boude au bout d'un moment, bah, il va aller sur le banc, on va mettre un jeune, c'est tout.
Mais
C'est
du coup,
aussi
Gâteau,
simple
tu
que ça.
préférerais, pour la Ligue 1, par exemple, tu préférerais faire confiance à Kurzawa ou monter Serif Naga?
Bah, le problème de Serif Naga, c'est que il n'a pas de référence. Kurzawa en a, mine de rien. Il a des références négatives comme positives. Mais c'est un problème. Donc moi, je fais tourner les deux.
Moi, la question que je me pose, c'est enfin, pourquoi Hernandez se plaint déjà? Est-ce qu'il se plaint vraiment?
Oui.
Il joue à 3, on joue à 3 derrière. Alors, c'est pas, on
En
joue pas à
vérité, oui.
3, hein. Mais on joue pas à 3, mais en fait, on joue quasiment à 3 avec un Hakimi comme l'a rappelé Reco, qui se projette très vite devant et qui même se recentre, qui a presque le rôle d'un milieu haut pour la réception des transitions. Et s'il apporte un peu défensivement, le taf défensif derrière est surtout assuré par Marquinhos qui couvre et l'axe et le couloir. Et on ressemble beaucoup plus à une équipe qui joue à trois. Donc Hernandez, là, pour moi, la question, en fait, la question n'est pas est-ce que Hernandez joue central. La question qui va se poser, c'est quand Nuno va revenir, comment est-ce qu'on va réussir à retrouver un équilibre à partir de là? Parce que si Nuno comprend stratégiquement, et je pense que moi j'ai totale confiance en le joueur, notamment au niveau de son intelligence tactique, c'est juste qu'il montrait peut-être un petit peu plus qu'Hernandez, et je pense qu'il est tout à fait capable de faire ce que fait Hernandez. Pour moi, la question, elle se pose plus là. Elle se pose pas la question de est-ce que Hernandez est malheureux dans ce truc-là parce qu'il voulait jouer au centre et que il joue à gauche, parce que dans les faits, 80% du match, derrière, on joue à 3. On t'entend pas, Nix.
T'es muté,
Kev,
X.
pour terminer.
Ouais, mais du coup, moi je vais rejoindre Drias, hein, parce qu'en fait, on se pose la question de Sheriff Naga ou quoi que ce soit, mais les gars, Hernandez, en fait, il joue défenseur central au PSG, donc à partir de là, en fait, moi j'ai plus l'impression que pour faire souffler Hernandez, on va devoir faire jouer un petit peu Mukiele, qui est là clairement pour compenser certaines blessures ou quoi que ce soit à sa place, ou faire rentrer même un Danilo Pereira axe gauche en Ligue 1 contre Clermont. Plutôt que de mettre un Kurzawa ou un Hakimi. En fait, malheureusement, même Sheriff Naga, il est bien gentil, il est bien mignon, mais aujourd'hui, dans notre système de jeu, Sheriff Naga ne jouera pas à défenseur central gauche. Si Sheriff Naga doit venir à jouer, ce sera piston gauche ou latéral gauche. Et aujourd'hui, en fait, c'est là, je pense, on se trompe depuis le départ quasiment. C'est que, voilà, Lucas Hernandez joue dans un système à trois. Il fait quelques montées comme Marquinhos le fait quelquefois avec le ballon, plus souvent que Marquinhos, bien entendu. Mais il est vrai que dans notre système hybride, Lucas Hernandez est un des trois défenseurs centraux. Donc il ne faut pas oublier aussi, les gars, pour en novembre, le retour de Kimpembe qui, lui, pourra postuler à ce poste.
Ouais, en fait, c'est surtout numériquement. Numériquement, si on prend Nuno Mendes et qu'on a besoin de le remplacer, on va prendre un profil comme Naga ou Kurzawa, logiquement. Mais en vrai, oui, si tu regardes dans le système, c'est plus un DC que tu rentrerais à la place d'un Lucas, vu comment il joue.
Et vu que Mukiele est revenu de blessure et que Danilo Pereira peut compenser à ce poste aussi, je pense qu'en Ligue 1, ça peut suffire, clairement. Par contre, il est vrai que une blessure en Ligue des Champions de Hernandez nous mettrait sûrement en difficulté. Et je
Ben
prends les plans, par contre, ou pas, du coach. Parce qu'on l'a vu que et Ugarte, Skriniar et Danilo ne sont pas forcément compatibles à deux, quoi.
mais par contre, Kev Nuno, il sera revenu hein, pour les joutes de Ligue des Champions à proprement parler. C'est une fois qu'on sera sorti de la phase de poule, il sera revenu.
Là, je te
Mais
parlais
les
de...
gars, il sera revenu.
Je te parlais de la
Il
phase
sera
de
revenu
poule.
à quel niveau?
Ouais.
Il sera
La
revenu
phase de
après un
poule,
an
je
sans
pense
jouer,
que
hein. Il
c'est
faudra
ça.
encore 2-3 mois avant de retrouver son niveau, hein.
Oui, mais
Merci,
tu peux
Pasto.
t'attendre à ce qu'en janvier il soit OP, quoi.
Non, il est opé en
Mais
février, c'est
après,
4 mois là. Donc février, c'est
il
minimum.
sera là, il sera là en mars.
Les gars, le problème, c'est qu'on parle de Kimpembe. Et pour moi, limite, je pense que la saison, il la jouera même pas, j'ai l'impression. Nuno Mendes qui vient de se blesser. Ils reviennent à quel niveau? C'est ça le problème aussi, c'est ça qui est dangereux.
Mais alors,
Parce qu'en fin de
Gattuso, dans ce
compte,
cas-là,
si c'est pour répéter les mêmes problèmes, d'avoir des joueurs qui reviennent. Enfin, eux, ils ne vont pas revenir vite, en attendant Kimpembe. Mais la blessure qu'il a eue, c'est une blessure qui va limite changer son jeu. C'est un changement de carrière, là. C'est super dangereux, la blessure qu'il a eue. Donc, moi, c'est pas que je ne veux pas compter sur lui, mais je ne m'imagine pas en faire quelqu'un, même dans la rotation, compter sur lui pour le moment, parce que il revient d'une blessure. J'attends déjà de voir dans les petits matchs. Moi, je ne parle même pas de Champions League avec lui, c'est pas possible.
Mais de toute façon, tout le monde gâteau. Tout le monde parlait de faire souffler Hernandez en Ligue 1 pour éviter les blessures en Ligue des Champions. Donc, à partir du moment où c'est que Kimpembe est apte, au vu du temps de repos qu'il a eu, au temps de réathlétisation qu'il a eu, c'est qu'il peut jouer les matchs de Ligue 1. En fait, la blessure au tendon d'Achille, c'est une blessure hyper délicate. Ça peut, en fait, il y a des joueurs, moi, je l'ai, même au niveau amateur, j'ai déjà vu ces blessures. Il y a des joueurs qui peuvent récupérer hyper vite de cette blessure. Tout comme il y a des joueurs qui, malheureusement, en fait, sur les changements d'appui, sur les changements de direction, peuvent toujours avoir une gêne et avoir des grosses difficultés, tu vois, notamment pour un défenseur qui doit toujours défendre un trois quarts, qui est amené à aller côté gauche, côté droit, etc. Donc, faudra voir en fait sa réathlétisation, comment il se sent sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que, parce qu'il n'est pas à l'entraînement, mais il fait des entraînements individuels et on a tous quelques vidéos, enfin, moi, j'ai vu quelques vidéos, j'ai l'impression que pour le moment, ses sensations ne sont pas mauvaises. Maintenant, le terrain et les entraînements individuels sont différents. C'est comme Nuno Mendes, c'est un jeune joueur. Même si là, je pense que mentalement, il doit être au fond du trou, hein, parce que depuis mars, il est blessé, si je me trompe pas. Depuis le match retour contre le Bayern, je crois que derrière, il se blesse contre Marseille ou je ne sais plus quand. Et mentalement, je pense que le fait qu'ils doivent être réécartés des terrains pendant 4 mois, ça doit être très très difficile pour un jeune joueur. Mais ça, honnêtement, pour Nuno Mendes, je m'en fais pas parce que c'est un joueur qui a des qualités qui sont intrinsèquement parlant largement au-dessus de la moyenne et son retour sur les terrains sera pour moi pas difficile pour retrouver son niveau. Par contre, de retrouver son niveau et ne pas se blesser, ça ce sera une chose vraiment différente.
Adria, j'ai vu que tu veux répondre. Vas-y, réponds et après on change de sujet.
Ok. Bah, très rapidement sur Kimpembe, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a un jeu qui est beaucoup basé sur l'explosivité physique. Enfin, vous vous souvenez de sa dernière blessure, il tente un grand écart pour essayer d'interrompre une action. C'est le genre de truc qu'il est capable de faire. Et mine de rien, son jeu est beaucoup basé là-dessus. Et comme il a déjà eu pas mal de gêne, bah, ça peut être problématique. Est-ce qu'au niveau réathlétisation, est-ce qu'il pourra produire la même intensité physique? C'est pas sûr à 100%. Comme tu le rappelais, Kev, enfin, faire quelques matchs et quelques vidéos, c'est pas des matchs et c'est pas des matchs qui se répètent. Et du coup, moi, j'aurais tendance à penser que peut-être il dépannera de temps en temps, mais il faudra pas trop compter sur lui. Et pour Nuno, moi, juste redire, c'est l'adaptabilité tactique de ce joueur qui est phénoménale. Il est capable de comprendre ce que tu lui demandes. Il faut un mois, 2 mois pour comprendre un logiciel et ensuite de ça, il est capable de faire. Donc moi, j'ai aucune inquiétude le concernant. Il saura s'adapter. Alors après, il y a bien sûr l'argument physique et surtout au-delà de la capacité à revenir au niveau, parce que ça, mine de rien, il est encore jeune. Ça, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. C'est surtout le fait d'avoir des rechutes. Mine de rien, c'est un joueur qui commence à enchaîner les blessures. Mais au niveau de l'adaptabilité tactique, pour moi, il sera tout de suite au niveau parce qu'il est vraiment capable.
Gâteau, j'avais déjà lancé quand tu as commencé à parler. Je suis
Ouais,
désolé.
j'ai dit au pire, tu peux jouer Kitiki arrière gauche, comme ça, t'es tranquille.
Ok, les gars, on va aborder un sujet à Luis Enrique. Juste avant ça, je voulais vous dire merci à tous ceux qui ont fait des dons déjà pour la cagnotte pour qu'on fasse la même chose en studio. Parce que là, vous voyez, on est 6. Imaginez comment ça peut être sympa si on était tous au même endroit à discuter avec vous. Donc le lien est dans la description pour ceux qui veulent continuer à participer. Vraiment merci à tous ceux qui ont déjà participé. Le sujet ensuite, c'est est-ce que Luis Enrique doit-il effectuer un turnover général contre Clermont ce soir pour faire souffler? Parce que mine de rien, on a des joueurs qui sont considérés comme un peu fragiles, notamment les Dembélé. On a parlé d'Hernandez tout à l'heure. Est-ce que c'est le bon moment pour faire un turnover général? Je te pose la question, Gâteau.
Bien sûr que c'est le bon moment. Tu as enchaîné Nice, tu as enchaîné Marseille. Entre ces deux matchs-là, tu as eu Dortmund. En Ligue 1, tu n'es pas trop éloigné de la première place. On sait que c'est Brest. On ne pense pas que Brest va tenir longtemps, même s'il faut grappiller des points. Mais tu joues contre Clermont, à Clermont, qui est en grande, grande, grande difficulté. Je pense à mon compatriote Moridio qui passe de très mauvaises semaines dans ses cages, parce qu'il est clairement abandonné par sa défense. S'il ne fait pas tourner maintenant, il fait tourner quand? C'est là où les petits jeunes aussi ils ont envie de grappiller un petit peu, avoir une titularisation ou jouer 30, 35 minutes. Ça fait du bien au moral. Et puis, c'est le moment aussi de concerner tout le monde pour dire que oui, bah, tu n'as peut-être pas joué contre Marseille, tu n'as peut-être pas joué face à Lyon, face à Lens, mais au moins tu as joué contre Clermont, j'ai pu compter sur toi sur un match. C'est ça aussi le but de ce genre de match. À l'extérieur, les gens vous attendent aussi pas forcément gentiment, mais une équipe qui est en difficulté, c'est le moment pour faire tourner. Et puis au pire, si on voit qu'à la 60, 70e, c'est compliqué, avec les temps additionnels, on sait que ça peut monter à aller 96, 97 minutes, et ben c'est là que tu fais rentrer des joueurs majeurs.
Ok, Val Bast, je sais jamais comment prononcer ton truc parce que t'as pas de voyelle dedans. Merci pour le don, merci beaucoup. Ta question, on va y répondre. On va juste y répondre tout à l'heure parce qu'on a un sujet Barcola qui arrive juste après. On va l'intégrer dedans. Pour continuer à répondre à la question, Kevzor, Basto et ensuite Réco.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Gâteau. On a eu une semaine de repos, une semaine où on a bien pu bosser. Je pense qu'on a besoin d'automatisme, notamment, je suis convaincu que Kylian Mbappé ne démarrera pas titulaire déjà. Et je pense qu'on a besoin d'automatisme. Barcola a besoin d'enchaîner des matchs. Avec la blessure de Nuno Mendes, c'est un joueur qui peut éventuellement être amené, comme contre Marseille, à jouer à ce poste. C'est un jeune joueur, il peut enchaîner les matchs. Je pense que Dembélé est dans une phase positive avec sa passe décisive. Il se doit d'enchaîner les matchs et éventuellement d'essayer de continuer sur sa dynamique. Pareil pour Ramos et Kolo Muani qui ont fait une super deuxième mi-temps ensemble. En fait, je ne suis pas pour faire tourner, comme l'a dit Gâteau, de manière générale et de faire un gros turnover. Par contre, certains joueurs peuvent être mis au repos. Un joueur comme Ugarte, à qui on sait qu'on n'a pas de remplaçant, peut être mis au repos. Un joueur comme Skriniar, qui n'a eu que très très peu de repos, peut aussi être mis au repos. Je pense qu'un joueur comme Hakimi aujourd'hui peut être mis au repos au profit de Mukiele, qui va être amené, avec la blessure de Nuno Mendes, etc., à avoir un peu plus de temps de jeu. Donc en fait, il va falloir être simple, juste, mais il ne faut surtout pas qu'on fasse un gros turnover. Parce que comme tu l'as dit, en fait, arriver à la 60-70e, si on commence à être en difficulté, on va perdre de l'énergie. On a un gros déplacement mercredi. Donc, il faut que le match le plie rapidement. Et ensuite, derrière, tu peux te permettre d'avoir une certaine gestion sur sa deuxième mi-temps. C'est la première fois de la saison qu'on peut aussi prendre, entre guillemets, la première fois, j'exagère, mais qu'on peut prendre la première place. Et je pense que pour la confiance de ce groupe, c'est important.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec Kev. Je pense qu'il faut faire un remaniement, mais assez léger. Moi, perso, je ne fais pas souffler Ougarté. Il est trop important, malheureusement. Et il n'a déjà pas joué contre Nice. On a vu comment ça se passait. Je mets Moukielé à la place d'Hakimi. Je mets Barcola aussi pour enchaîner. Et je mets Ruiz à la place d'Emery. Emery a joué tous les matchs depuis le début de saison. Ruiz a fait des rentrées assez convaincantes contre Lyon et Marseille. Il n'a pas été titulaire depuis la deuxième journée contre Toulouse. C'est peut-être le moment pour lui de jouer. Donc Ruiz à la place d'Emery, Moukielé à la place d'Hakimi et Barcola qui enchaîne. Et Danilo peut-être à la place de Skriniar, c'est tout. Sinon, je mets le reste, je mets l'équipe type.
Reco et Dryas.
Compliqué. Je pense qu'il y a quand même un état des lieux à faire, à savoir si voir un peu la forme physique de tout le monde, s'il y en a qui ont besoin de souffler, etc. Ça, on n'est pas là pour le voir et le sentir dans le groupe. Mais je pense que turnover, oui, mais petit, je suis assez d'accord avec Kev et Basto. Je pense qu'on ne peut pas trop faire tourner tout le monde. Il y a des automatismes à avoir. Et mine de rien, le dernier match qu'on a joué, là, ils ont eu quoi ? Ils ont eu une semaine entière pour se reposer. Là, ils vont enchaîner Clermont, qui normalement, avec une équipe, on va dire, type, ils devraient normalement plier le match assez vite, ce qui pourrait quand même faire tourner du monde. Et ça, ce serait le meilleur scénario. Donc, ça pourrait les faire souffler un peu. Il y a Newcastle, je crois, mercredi. Donc, ça laisse quand même un peu de temps. Et après, il y a un match de Ligue 1 avant une trêve internationale, si je ne me trompe pas. Donc, a priori, pour des joueurs professionnels, ça devrait le faire. Et au contraire, du coup, je suis assez d'accord avec ça parce que justement, je me dis que s'il y a l'équipe type, rapidement, tu peux plier le match et donc tu peux faire tourner. Alors que si tu peux tourner trop vite, tu peux te retrouver dans un match compliqué avec un Clermont qui va mettre le bus. Donc, au final, ce serait peut-être pas forcément nous rendre service physiquement que de faire un gros turnover. Après, je pense qu'il y a des joueurs quand même à préserver, notamment Ougarté, qui est beaucoup trop important. Et si on le perd face à Clermont, à des bouchers sur une pelouse qui va être un peu compliqué avec un stade en travaux et tout, on va s'en mordre les doigts. Donc, je pense qu'il y a des joueurs quand même importants à faire tourner, un Mbappé à préserver. Mais après, globalement, je pense qu'il faut quand même mettre l'équipe titulaire.
Très rapidement, l'essentiel a été dit. Il y a le fait d'avoir un match mercredi, ouais, on pourrait se dire il faut faire tourner, mais au contraire, c'est plus en te donnant l'opportunité de plier le match rapidement que tu pourras reposer tes titulaires et les amener à moins puiser sur la durée. Il y a l'argument de la semaine off qui a été avancée et qui va être super important, qui va permettre à au moins une bonne part de l'effectif de trouver du temps de repos. Et il y a juste un truc, c'est Ougarté, on est Ougarté dépendant. Après, Ruiz le faire rentrer en 8, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que les deux entrées qu'il a fait, qui étaient des entrées qui étaient convaincantes, à mes yeux en tout cas, il les a fait en 6.
Non, Marseille, c'est 8.
Marseille, il est 8?
Ouais.
Ok, bah moi là où je l'ai vraiment kiffé, c'est quand il était en 6 en fin de match, quand il était rentré en remplacement de Ougarté, où justement il avait apporté un truc dont on parlera tout à l'heure qui était important. Et Ougarté, bah on est dans une Ougarté dépendance. C'est malheureux à dire. Il y a des matchs où il va falloir le faire tourner, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est très très solide physiquement, parce que mine de rien, les contacts, il commence à les enchaîner depuis le début de la saison. Pour l'instant, il bouge pas d'un poil, et j'ai vraiment du mal à imaginer un match, au moins en tout cas les 60 premières minutes sans lui. Ougarté, je serais plus dans la team, essayer de mettre deux buts et ensuite de ça faire tourner pour pouvoir le reposer et pas lui demander de taper pendant 90 minutes. Je trouve qu'on a trop, trop, trop besoin de lui. Et donc, Ruiz le garde pour la 60e, perso.
Vas-y, conclue, Basto.
Ouais, juste un mot sur Clermont, parce que Rico a dit qu'ils vont mettre le bus, etc. Clermont ne sait pas mettre le bus. D'ailleurs, c'est assez marrant cette année.
C'est une possibilité.
Ah oui. Parce qu'on regarde Clermont qui n'a qu'un point en 6 matchs, mais Clermont a beaucoup plus de possession que ses adversaires. Clermont a beaucoup plus de frappes que ses adversaires. Donc, on est pour le moment sur une équipe qui est en sous-réussite totale. Parce que quand on regarde juste les stats brutes, on a l'impression que Clermont a dominé le match et à chaque fois, ils perdent. Et Luis Enrique a rappelé quelques chiffres hier, d'ailleurs, en conférence de presse. Troisième équipe qui a le plus le ballon du championnat et quatrième équipe qui subit le moins de tirs. Donc, ils ont une certaine maîtrise. Ils concèdent peu de tirs, malheureusement. Qu'ils concèdent, c'est des grosses erreurs de défenseurs et ça finit souvent au fond.
En fait, l'année dernière, ils ont fait une très belle place parce qu'ils jouaient justement très bien.
Dans les deux surfaces.
Ce qui est faux de Clermont, c'est que c'est le contraire de Strasbourg. Strasbourg, qui ne doit jamais être dans le haut du championnat, arrive à battre Lyon, arrive à battre Metz, arrive à battre Toulouse, et Clermont qui galère, qui fait des matchs. Bon, il rencontre un, s'il me le semble, etc. Donc, c'est pas forcément simple pour eux. Mais moi, le match de demain, je suis pas inquiet, c'est pour ça que je dis les titulaires, je suis pas forcément.
Aujourd'hui, le match est bientôt.
Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. En plus, tout à l'heure, j'ai dit. Mais on est habitué à dimanche. PSG 17h, ça c'était à l'ancienne, les 2014-2015.
Ok, on a avant d'abord. Vas-y, Dres, fini.
J'ai oublié ce que je voulais dire.
Désolé. on va faire venir notre coach préféré pour nous dire quelque chose.
Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'était meilleur. C'était joué. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est avec la carte et l'autre, il va jouer.
Voilà, il va jouer. On va parler concurrence avec Bradley Barcola. Juste avant ça, on va parler concurrence. On va faire un petit parallèle. Sachez que quand on vous dit de mettre des likes, les gars, c'est parce qu'on est en concurrence sur YouTube avec d'autres chaînes PSG. Et nous, on est des joueurs de foot. On est des anciens joueurs de foot. On veut être les numéros 1. Donc, likez, parce que si leur commune like plus que vous, bah du coup, ils vont être plus gros que nous. Et nous, on veut les éteindre parce qu'on est des joueurs de foot. Donc, voilà, c'est tout. Barcola, le sujet Barcola. En fait, Luis Enrique a trouvé beaucoup de qualités à Barcola. Il dit que c'est un joueur du futur qui est très, très complet, qui a toutes les qualités pour devenir un très, très grand joueur. Est-ce que, selon vous, Barcola peut s'imposer dès cette saison? Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent faire sauter, clairement, s'il a le niveau. Ou est-ce que, je sais que c'est le petit protégé de Kev, est-ce qu'il faut lui laisser le temps et faire un peu comme Liverpool avec leur recrue quand le mec il arrive, la première saison, il ne joue pas vraiment. Et la deuxième saison, ça y est, il est intégré. On va faire comme ordre Kev, Kev, Dryas, Reco.
Du coup, ben, moi, vous savez très bien... Tout l'amour que j'ai pour ce petit Bradley Barcola, j'ai fait beaucoup de choses pour sa venue. Je pense y avoir contribué à 90%. Mais, pour parler plus sérieusement, comme l'a dit Enrique, en fait, à partir du moment où qu'en conférence de presse, ton coach t'en sens autant, c'est que concrètement, le joueur, c'est pas une pipe. On l'a vu, première titularisation de la saison. Dans un classico qui était annoncé chaud, en sachant qu'on était derrière Marseille au classement, même si eux parlaient de crise, on était derrière eux en termes de points. Et sa première mi-temps est excellente dans ses choix, dans ses prises de risque, dans ses prises de décision. Franchement, j'ai trouvé vraiment un joueur, tu avais l'impression d'avoir un joueur pas abouti, hein, bien entendu, mais un joueur expérimenté à ce style de match. J'ai vraiment kiffé. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, Barcola est un jeune joueur, mais il ne faut pas oublier en fait que ce n'est pas un style de Nuno Mendes, de Mbappé, de Zaïre Emery. C'est un joueur qui va bientôt faire 21 ans, donc qui a quand même eu une saison à l'Olympique Lyonnais, même si sa première partie de saison, il joue un peu moins. Moi, je te dis honnêtement, c'est un joueur qui concrètement, s'il est bon, doit jouer. La concurrence doit être saine. Je pense que Luis Enrique apprécie énormément le profil. C'est un joueur sur qui on a misé en dehors de l'argent, qu'on a beaucoup misé. Pourquoi ? Parce que si éventuellement tu as un départ de Kylian Mbappé cet été ou dans un an ou peu importe, c'est un joueur qui peut éventuellement apporter un profil et de profondeur et de percussion et de passeur et de buteur. Comme il l'a dit, c'est un joueur très très complet. Moi, honnêtement, je dis c'est un joueur que j'aime beaucoup. Certains me prenaient pour un fou sur Twitter quand je faisais cette petite propagande, mais concrètement, en fait, il y a juste à regarder le joueur. Il défend, il attaque. Il est bon dans ses choix, il est intelligent, il a un QI football au-dessus de la moyenne, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, il a les deux pieds, capable de finir, capable de faire marquer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut aux fans du PSG pour ne pas être hype devant un tel joueur? Donc voilà, maintenant, il ne faut pas non plus, j'exagère un petit peu dans ma façon de parler de lui, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs qui avaient des qualités qui se sont plantés. Je pense qu'il est dans un contexte parisien et français aujourd'hui dans ce club qui peut lui permettre de continuer à passer les étapes sans se brûler les ailes. Et il a en plus un coach qui compte énormément sur lui et qui est capable de faire exploser des jeunes. Moi, aujourd'hui, je ne vois... Franchement, je n'imagine aucun monde où Barcola n'explose pas cette saison au PSG. Aucun.
Moi, j'étais, je ne le connaissais pas trop l'année dernière. Et quand j'ai vu le prix... Bah, et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, attention, do incoming. On a déjà fait ça l'année d'avant avec Ekitike, j'avais l'impression d'une redite du truc, et puis j'ai vu le joueur, quoi. Tu parles de son match contre Marseille, et on va revenir sur son match contre Marseille, mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est pas son match contre Marseille, c'est sa rentrée contre Lyon. C'est-à-dire qu'au-delà des qualités footballistiques, le gamin, il a un mental, mais de psychopathe. Il rentre à la 65e, 70e, je me souviens plus, contre son ancienne équipe, sous les sifflets de tout un stade. Il est pas perturbé pour un sou. Il se propose toujours, il offre toujours des solutions. Et enfin, au niveau mental, il est prêt. Il y a pas de. Alors après, faut voir sur la répétition des matchs. Est-ce que PSG, oui, il a fait des répétitions des matchs à Lyon. PSG, ça serait pas tout à fait pareil. Donc, faut aussi un peu prendre le temps. Il s'agit pas de le mettre titulaire, tout ça. Mais je suis complètement d'accord avec Kev. Il faut une concurrence saine devant. Il y a des gros noms, hein, notamment là où il joue. Mais s'il est bon à l'entraînement et au-delà de justement juste avoir besoin de faire reposer les mecs devant. Bah, pourquoi pas qu'ils prennent une place. Maintenant, il a encore des choses à apprendre parce que justement, si on regarde le match contre Marseille, il a mis un bouillon pas possible à Klose. Klose, il l'a mis dans sa poche droite, puis dans sa poche gauche, et puis après, il est passé et l'a dévoré tout cru. Mais bah, mine de rien, les attaques sont venues de son côté et il a été en retard plusieurs fois sur Klose. Donc, c'était une prestation qui a été très bonne, mais qui tactiquement n'était pas encore hyper aboutie. Et c'est un joueur, et c'est normal, hein, il a 21 ans, il a encore une petite marge de progression tactique. Comme tu l'as rappelé, il sait défendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ses appels, sa disponibilité. Il est tout le temps là pour. Il va être capable de faire le dribble, il va être capable de prendre la bonne décision. Je lui vois encore une petite marge de progression au niveau tactique. Mais comme tu l'as dit, Luis Enrique, là dans son viseur, a l'intention de le faire progresser. Et c'est un joueur dans lequel je le crois. Et je ne serais pas surpris si en deuxième partie de saison, il devenait quasi un titulaire, en fait.
Rico, Gâteau, Basto.
Ouais, après c'est pas évident, il se retrouve à jouer piston et tout, donc bon, défensivement c'était pas évident pour lui, mais ouais, évidemment il a rendu une copie incroyable. Surtout moi, ce qui m'a choqué au-delà de toutes les qualités qu'on lui connaît, c'est surtout qu'il jouait juste, il respectait le jeu. Quand il fallait la donner, il la donnait. Quand il fallait dribbler, il allait dribbler. Et ça, c'est fort pour un joueur de faire les bons choix à chaque fois, de donner le ballon au bon moment, de faire le geste juste au bon moment. Pour un jeune joueur surtout, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et moi, de toute façon, je rejoins complètement Kevzor. Pour moi, c'est un talent générationnel et il va s'adapter parfaitement dans cette équipe petit à petit. Mais le niveau, il l'a déjà, il est déjà prêt. Et évidemment, il y aura de la concurrence. Luis Enrique l'aime beaucoup. Et au-delà de ça, il a déjà dit qu'il allait avoir un groupe de 20-23 titulaires. Donc, il jouera souvent. Il va pouvoir s'imposer dans cette équipe. Et c'est clair qu'au moment où un Mbappé partira peut-être l'année prochaine, au moins, on aura un vrai joueur qui pourrait potentiellement le remplacer. On verra ce qu'il en sera à ce moment-là. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Kevzor a tout dit. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui.
Moi, je trouve qu'il a de la personnalité. Après, s'imposer maintenant, peut-être pas, mais au fur et à mesure de la saison, oui, il y aura des blessures, il y aura des retours des internationaux. Par exemple, contre Nice, vu qu'il y a des personnes qui sont en équipe nationale, type Dembélé ou Mbappé, il aurait pu aussi jouer titulaire, on ne sait pas, malgré qu'il soit espoir. Je pense que même cette saison à droite, il y a un truc à faire, pourquoi pas. Parce qu'il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Si tu abuses un peu, il peut peut-être jouer dans l'axe. Ce sera un profil différent de Ramos. Où, là, on pourra peut-être combiner plus avec lui.
Il peut jouer à côté d'un Ramos, ouais.
Aussi. Donc, il peut jouer un peu partout. Est-ce qu'il ne peut pas jouer même derrière l'attaquant dans un cas où tu modifies ton système de jeu? Donc, non, en tout cas, il a le profil pour jouer à plusieurs endroits. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il puisse jouer beaucoup cette saison. Les jeunes joueurs, ils ont besoin de beaucoup jouer. L'erreur, on a un témoignage, on a Ekitike qui est le témoin d'une mauvaise gestion d'un jeune à fort ou pas fort potentiel. Évidemment, je ne compare pas les deux joueurs parce que Barcola est supérieur. Mais les jeunes joueurs, ils ont besoin de beaucoup jouer. Je pense qu'il va beaucoup jouer pour pouvoir progresser. Et c'est encore un diamant brut. Donc, faut le polir. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir en faire un grand joueur.
Concentre-toi, ouais. Bateau.
Moi, j'étais aussi enthousiaste que Kev sur Barcola. J'en parlais à Dryas cet été, justement, quand lui avait plus de doutes, si tu ne connaissais pas le joueur. Mais Barcola, c'est le nom, parmi toutes nos recrues, dont j'étais le plus content de base. Tu vois, Barcola, je le voulais vraiment. Sur le jeu, tout a été dit par tout le monde. Maintenant, j'ai aussi envie de parler de sa personnalité, de son comportement. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Tactiquement, il fait ce qu'on lui demande toujours, que ce soit quand il joue dans l'axe en équipe de France Espoir, à gauche contre Marseille, où il devait vraiment étirer le bloc et rester sur l'aile. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Il est très fort là-dessus et c'est quelqu'un qui est assez discret dans un vestiaire, a priori, mais qui s'intègre bien. Mais qui est très calme, très réservé, qui est vraiment à l'écoute à chaque fois des conseils des coachs. Donc, c'est quelqu'un qui a un comportement assez exemplaire, et je pense que c'est important pour Enrique notamment. Donc il ne peut que gratter du temps de jeu via son niveau de jeu et via son comportement dans le vestiaire. Donc je pense que Barcola va réussir à s'imposer pour ça. Alors joueur du futur, oui, on peut dire quand tu le mets titulaire dans un classico, c'est que c'est déjà un joueur du présent qui fait déjà partie des 14, 15, 16 joueurs sur lesquels on va compter cette saison réellement.
Ouais, et puis quand même pour finir vite fait, une petite pensée à tous ceux qui ont commenté, ouais, et qui tiquaient bis, etc. Quand il y a eu le transfert, à un moment donné, avant de parler, faut quand même regarder les matchs. Si on se permet d'en parler, c'est qu'on a vu un minimum les matchs. Et quand je vois les commentaires des fois, et qui tiquaient bis, etc. Machin, tu dis n'importe quoi. Et tout, ouais, ça fait mal au cœur, surtout avec un joueur exceptionnel comme ça. Mais bon, au moins tout le monde s'en rend compte maintenant.
Il faudrait se souvenir de ce qui était dit sur Ekitike l'été précédent. Nix, il y a Panamje qui est dans les parages. Je ne sais pas s'il a vu pour le flocage.
Ah oui, Panamje, c'est toi qui as gagné le flocage. Je ne sais pas si tu as vu le live dès le début ou si tu es arrivé encore de live. Donc c'est toi qui as gagné. Il faudra que tu m'envoies un mail et tout. Il y a le mail dans la description. On va enchaîner avec la minute tactique. La minute tactique, c'est vous êtes Lucho. Donc mettez-vous dans la peau du coach. Tactiquement, qu'est-ce que vous travaillez en priorité de ce que vous avez vu sur les derniers matchs? Quelle est votre priorité tactique? Alors, pour répondre à cette question, on va faire Reco, Basto, Kevin, Kevzor.
Je dirais plus le travail avec ballon, parce que bon, on voit qu'en transition, on est toujours aussi fort. On voit que ça va très vite. Défensivement, on est très bien aussi. On a asphyxié pas mal d'adversaires depuis le début de la saison. Donc, continuer peut-être ce travail aussi défensif, ce travail de contre-pressing, notamment quand il y a Mbappé. Je pense que c'est surtout là où on va devoir être un peu meilleur, parce qu'on l'a vu dans les statistiques. On est moins bon à la récupération du ballon, à la perte de balle, quand on a Mbappé. Donc je pense qu'il va falloir travailler peut-être un système aussi avec lui et des circuits comme ça avec lui. Mais je dirais plus le jeu avec ballon, parce que bah, clairement, c'est là où on pêche. On n'a pas forcément les joueurs pour, etc. Donc peut-être travailler des phases de possession ou de 10 à 20 passes, et derrière peut-être pouvoir accélérer un peu plus. On va rencontrer souvent des blocs bas, notamment en Ligue 1. Donc bon, en Ligue des Champions, je pense que ça ira sans problème par rapport au jeu qu'on a et à ce qu'on produit. Mais je pense qu'en Ligue 1, il va falloir qu'on sache s'adapter. Alors maintenant, il y a eu ce 4-2-4 qu'a mis Luis Enrique. Mais ouais, je dirais plus travailler notre jeu de possession. Après, pour le reste, je trouve qu'on est déjà pas mal.
J'irais plus de variations dans les circuits avec ballon. On a des défenseurs qui sont très responsabilisés, notamment Skriniar. On passe pas mal sur l'aile, c'est assez bien. Maintenant, nos milieux, dans la circulation du ballon de nos trois milieux, il y a pas mal de progrès à faire, même si on sait que vu leur profil, c'est pas forcément un jeu intérieur qu'on peut, mais pour amener un peu plus de variations. Ouais, je pense que c'est possible quand même avec des automatismes et de l'apprentissage. Et autre chose, sinon, c'est les coups de pied arrêtés, que ce soit offensif comme défensif. Ça fait des années qu'on pêche là-dedans. On n'est pas très très bon non plus dans ce début d'année dans ce domaine. On a ramené un Skriniar ou un Lucas Hernandez. On a maintenant aussi plus. Avant, on n'avait que Marquinhos à un moment donné parce qu'on n'avait plus de joueur de tête, ou Danilo. Là, on a ce qu'il faut pour être plus dangereux sur ces phases arrêtées et être moins en danger quand l'adversaire en a.
Moi je serais plutôt en fait sur la zone de finition, c'est-à-dire les 30-40 derniers mètres adverses où concrètement en fait en termes de relation à 2 à 3, on a des difficultés, on arrive à se rapprocher très vite de la surface, à déséquilibrer beaucoup les adversaires. Mais par contre, je trouve qu'en termes de situation et d'occasion de but qu'on se procure, notre finition pêche quand même un petit peu. Donc voilà, moi je serais beaucoup plus sur ce domaine-là. Je trouve que depuis le début de saison, voilà, on s'est créé énormément d'occasions ou de situations de centre. De possibilités de marquer, parce qu'en fait il faut savoir que quand on a le ballon, il y a trois phases de jeu à travailler, c'est-à-dire la conservation, la progression, le déséquilibre et la finition. Et la finition, c'est une zone du jeu qui se situe dans les 30 derniers mètres adverses, et je trouve qu'on y est régulièrement en phase offensive, on y est régulièrement en égalité numérique, voire même en supériorité numérique. Et je trouve qu'en fait, finalement, avec toutes les situations et occasions qu'on a, on n'a pas marqué beaucoup de buts par rapport à tout ce qui aurait pu être marqué. Donc c'est hyper important de savoir que Luis Enrique, dans son projet de jeu, veut absolument marquer plus de buts que l'adversaire. Et je suis convaincu que lui, dans son travail fait à l'entraînement, eh bien, il essaie de travailler énormément en fait tout ce qui est situation dans les 30 derniers mètres.
Attends, deux secondes. Ouais, j'ai pas tout à fait la même lecture que toi là pour le coup, Cavre. Je trouve qu'on arrive à se créer des situations, mais on n'a pas tant de frappe que ça. Et justement sur la dimension. Sur la dimension être en surnombre offensif, justement, je le vois pas assez souvent. Et c'est pour ça que je vais être, plutôt être d'accord avec Basto. C'est justement apporter une variation, parce que pour l'instant, les transitions, on est capable de transition rapide par la passe, on est capable de transition avec un milieu qui va transpercer, mais justement, on n'est pas capable de transition avec la possession, comme le nommait Recoba, où tout à coup, tu vas pouvoir aussi, par des circuits de passe, amener un déséquilibre qui etc. Et je trouve que, pour l'instant, ça m'a l'air un peu trop simple de défendre contre nous, dans le sens où tu n'as pas besoin de te protéger en fait, sur ton milieu et couper les premières lignes de passe parce qu'en fait, ça part tout de suite devant. Donc, tu envoies tes mecs derrière. Et je trouve que, enfin, en tout cas, c'est ma lecture. Hein, j'ai vu la Basto réagir, donc je suis peut-être le seul à voir ça. Mais je trouve qu'on n'est pas assez régulièrement, justement, en surnombre offensif. Et je pense que, par exemple, on a un Kylian Mbappé qui a rarement l'occasion de faire des différences solo. Les différences interviennent beaucoup plus avec un Dembélé qui a un profil dribbleur, même si Dembélé il va un peu gâcher au bout. Et j'aimerais que des fois, les défenses aient eu moins le temps de se replacer. Et je pense que ce serait le cas s'ils étaient plus obligés de nous bloquer au milieu parce qu'on était capable de ressortir plus proprement que ça. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez de variations. Et là-dessus, moi, je rejoins complètement Baston. Ce qui nous manque, même si... Alors attends, je ne suis pas dans la critique. Hein, je suis dans l'axe d'amélioration parce que je prends beaucoup de plaisir en regardant l'équipe et j'ai de nouveau hâte de voir les matchs. Mais pour moi, l'axe d'amélioration, c'est vraiment de varier les manières d'attaquer, y compris en partant de plus bas, pour justement être capable de beaucoup plus surprendre avec les transitions rapides. Et là, pour le coup, je me retrouve presque à dire du bien d'un joueur que je voulais absolument voir partir, qui était Marco Verratti, parce que son profil fait défaut. Avec les trois milieux qu'on a, est-ce qu'on est capable de faire ça? Je ne sais pas. Est-ce que Vitinha serait capable tactiquement d'à la fois être ce milieu qui sait se projeter, qui sait être utile haut, mais qui est aussi utile à la relance basse? Et est-ce que Warren Zaïre-Emery va pouvoir ajouter cette corde à son arc? Je ne sais pas, mais moi, j'aimerais vraiment qu'on multiplie les circuits de jeu et qu'on ne soit pas que juste les longues transitions ou les percées du milieu.
Ah, il manquait qui? Gato et Reco, c'est
juste ça? Oui, juste moi, rapidement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Drias. Par contre, moi, je suis d'accord avec Kevzor, parce que je l'avais dit dans mon dernier débrief. Je trouve que par rapport à tous les moments forts qu'on a pendant un match, je trouve que dans les 30 derniers mètres, il y a des choix qu'on fait qui sont pas bons. Il y a des moments où on doit frapper, on frappe pas. Il y a des moments où on essaie de rentrer avec le ballon dans la cage alors qu'on doit frapper. Il y a des moments où les choix de passe ne sont pas bons. Et je trouve que par rapport à, justement, je trouve qu'on arrive beaucoup à rentrer dans ces 30 derniers mètres. Il y a du monde, mine de rien, et notamment face à Marseille, il y a du monde, il y a des solutions. Mais je trouve que les solutions choisies et le choix qui est fait doit être meilleur, et on aurait beaucoup plus de frappes et beaucoup plus de buts, même si un match face à l'OM où tu gagnes 4-0, évidemment, ça ne reflète pas ça. Mais quand tu regardes le contenu du match, finalement, tu te rends compte que tu peux beaucoup mieux faire, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi face à Dortmund. Donc voilà, je trouve que dans ces 30 derniers mètres-là, on a des choix, des meilleurs choix à faire, et on serait bien meilleur au niveau de nos frappes, nos finitions. Donc je suis d'accord avec Kevzor.
Si je peux me permettre, vite fait, parce qu'après, de toute façon, moi, je vais devoir vous quitter. En fait, il faut savoir que quand je parle de finition, je parle de la finition globale. C'est-à-dire que, en fait, la finition, c'est l'avant-dernière passe, la dernière passe, la frappe, les combinaisons que tu peux avoir dans les 30 derniers mètres qui permettent, après le déséquilibre, de trouver en fait, l'angle parfait pour soit faire la passe, soit marquer, etc. Et en fait, si on fait le résumé de tous les matchs depuis le début de saison, mis à part le premier où ça a été quand même assez stéréotypé, stérile, etc., je trouve que globalement, tu as eu beaucoup de transitions, tu as eu de la possession, tu as eu de l'élimination en 1-2 et des différences faites individuellement. Mais malheureusement, même contre Lens et Lyon, où on marque quand même pas mal de buts sur un match, regardez le nombre de situations de centre qu'on a, de situation de marquer qu'on a, de situation de frapper qu'on a, tu te retrouves avec... Je ne suis même pas convaincu que finalement, tout ce qu'on a soit converti au minimum, en occasion de but, je parle de 40%. Quand je parle d'occasion de but, ce n'est pas en fait un centre, etc. Une occasion de but, c'est vraiment pour aller dans le vif du sujet. Comment dirais-je, c'est là où on doit marquer, point. Parce que Hakimi, combien de fois il est en situation de centrer? Combien de fois il a centré entre guillemets, tu vois, j'exagère parce que je dois partir, je suis en retard. Mais on a trop de situations dans les 30 derniers mètres qui font que concrètement, on pêche dans ce domaine-là. Et je suis convaincu, et j'insiste, que Luis Enrique, il l'a dit, lui, ce qu'il veut, c'est marquer plus de buts que l'adversaire. Donc, je pense qu'il met vraiment un point d'orgue là-dessus.
Je conçois que tu veux répondre, mais laissez Gato parler.
Merci beaucoup.
Bon, les gars, je vous souhaite une bonne journée.
Allez, Paris. C'est pour ça.
Bon match.
Paris.
Salut, ciao.
En plus, moi aussi, je vais partir là dans 3 minutes. J'ai un endroit, désolé, messieurs. Non, en tout cas, en amélioration, au-delà de ce que vous avez cité, parce que ce que vous avez cité, c'est juste. Peut-être les frappes de loin, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de frappes de loin. Et il faut qu'on ait une capacité à moins subir d'occasion. Parce que quand on regarde vraiment avec un peu plus de loupe, avec une grosse loupe, le match face à l'Olympique Lyonnais ou même face à l'Olympique de Marseille, on aurait pu prendre des buts qui, au moment où ils arrivent, auraient pu nous mettre un peu en difficulté, mine de rien. On subit des occasions. Lyon, on a subi trop de tirs, selon moi, pour une équipe aussi faible. Même si on gagne le match, hein, je suis très content du match. Voilà. Et mine de rien, on perd la deuxième mi-temps. Alors, c'est juste vraiment des axes d'amélioration. On n'est pas en train de rouspéter. Oh, on a perdu la deuxième mi-temps contre Lyon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. C'est on regarde vraiment ce qui pourrait être bien pour la suite de la saison. Et moi, subir autant d'occasions, il faut faire attention, mine de rien. Alors, oui, on va gagner les matchs parce qu'on va avoir des occasions. Il faut qu'on les concrétise, comme vous l'avez dit. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions créées et je pense que Ramos ou Colomani peuvent devenir de vrais snipers, de vrais tueurs devant le but. Mais il faudrait des frappes de loin. Ah, ou garder peut-être qu'il commence à une capacité de tirer de loin. Zaire Emery, la même chose. Et Ruiz, il a cette capacité.
Vitinha en est capable.
Vitinha en fait d'ailleurs.
Vitinha étant libéré, il avait fait l'année dernière, il n'avait pas fait.
Ouais, il avait mis.
Non, mais là, cette année, il a fait.
On ne pas aussi,
c'est des frappes de loin. Et puis, ça permettra aussi au milieu de terrain d'avoir une autre palette. Donc, c'est bon. Ça, c'est un petit point qui pourrait nous aider.
Par rapport aux commentaires, ça viendra avec l'habitude. Ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est un axe d'amélioration. Du coup, forcément, ça va venir.
Complètement. En fait, on se retrouve pas à critiquer, mais à émettre des envies parce qu'on est enthousiaste par rapport à l'équipe et on a envie de parler de l'équipe parce que justement, on kiffe nos matchs et on se dit comment est-ce que ça pourrait être mieux. Et juste pour répondre rapidement par rapport à ce que disait Kev, c'est dommage, je l'ai plus là. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Le point sur lequel j'étais pas d'accord, c'était sur les situations de surnombre offensif et justement, je trouve qu'on en a pas assez et qu'on compense justement ce surnombre par le talent offensif, même si, comme le rappelait Réco, on n'a pas assez de transformation. Maintenant, je voulais revenir sur l'aspect défensif. Et c'est vrai qu'on concède beaucoup trop. C'est vrai qu'on concède beaucoup trop, mais là où je trouve ça... Enfin, moi, ça ne m'inquiète pas, en fait, parce que pour l'instant, pour moi, c'est des ajustements tactiques qui manquent. Parce que j'ai l'impression qu'on a une qualité au niveau de la récupération des seconds ballons, entre autres grâce à Ugarte, mais pas seulement pour le coup. Tu as Ugarte qui va presser extrêmement intelligent. On a un nombre de récupérations hautes qui est juste hallucinant. Et en effet, une fois qu'on n'a pas réussi à récupérer, il y a des déséquilibres qui se créent. Mais pour moi, ça, c'est juste des ajustements tactiques. C'est du peaufinage. C'est du peaufinage. C'est-à-dire que sur la prestation défensive de l'équipe, à titre perso, je suis laisser voguer le navire en le faisant progresser un petit peu et on va y arriver. Alors que justement, dans ce que nommait Basto au niveau des circuits de passe, pour l'instant, je vois pas la possibilité de se dessiner avec l'effectif tel qu'il est. Et je trouve ça dommage parce que ça nous amènerait plus de variations qui nous permettraient d'avoir plus de surnombre devant.
En fait, défensivement, dès que le contre-pressing ne marche plus parce qu'il n'y a pas Ugarte sur le terrain contre Nice, ou parce qu'en fin de match, tu es un peu plus fatigué, donc tu récupères moins vite la balle, tout de suite, effectivement, on commence à subir la fin de match contre Lens, la fin de match contre Lyon, la fin de match contre Dortmund. Dès qu'il n'y a plus ce premier contre-pressing qui marche, derrière, il y a un problème, effectivement. Enfin, le Nice, c'était criant.
Mais c'est, pour moi, c'est un des ajustements tactiques. Ce n'est pas encore une révolution tactique. Quoi.
Bon, les gars, parce que, je vais devoir parce vous couper parce que sinon... Parce que sinon, on va dépasser une heure parce qu'il reste encore des sujets. C'est très, très, très intéressant. Mais il y a des sujets, donc on va essayer de continuer quand même. Ça concerne Kylian Mbappé. C'est l'avant-dernier sujet. Bon, le dernier, il est très rapide puisque c'est des pronos. Un Mbappé sans prépa, est-ce que ça aura un gros impact sur sa saison ou ça va juste décaler son pic de forme qui, en général, peut-être arrive un peu plus tôt dans la saison. Mais là, on a vu que même avant sa blessure, et il marquait statistiquement, il était présent. Mais dans le jeu, ce n'était pas trop ça. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. À quel moment son pic il va arriver ou est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'ait pas eu de prépa, ça va endommager sa saison? Vas-y, Gato, vu que tu dois partir, et après, Rico, Dryas, Basto.
Bah, les gars, moi, je pense que son pic de forme va être décalé. Le problème, ça ne va même pas être forcément pour le Paris Saint-Germain, ça va être peut-être sur l'Euro 2024.
Et les JO.
c'est ça, les JO, etc. Donc, bon, pour nous, le Paris Saint-Germain, ça ne va pas nous trop. Même si il y a des matchs où il va falloir peut-être le faire reposer, il va falloir avoir une gestion. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres joueurs à côté. Lui, il a une capacité à enchaîner qui est exceptionnelle. Maintenant, il y a peut-être l'hiver, il va peut-être moins kiffer l'hiver, je ne sais pas, c'est les différents changements de température, je ne sais pas exactement comment ça va gérer, mais je pense qu'au bout du bout, ne pas avoir une préparation normale, parce que cette préparation n'était absolument pas normale, ça peut le gêner jusqu'à la fin de saison. Et les fins de saison, c'est qu'il y a une compétition internationale en Allemagne, donc ça peut être tangible pour eux. Messieurs, un grand merci, et à la prochaine, si c'est Paris.
Non, moi je m'inquiète pas parce qu'on l'a déjà vu les saisons précédentes, notamment l'année dernière où il est arrivé en forme très tard au final. L'année dernière déjà il statait en début de saison, mais dans le jeu c'était pas forcément ça, physiquement c'était pas forcément ça. Donc je m'inquiète pas. Je pense que il y aura un Mbappé en 2023 là sur cette fin de saison et il y aura un réel Mbappé en 2024. Donc personnellement ça m'inquiète pas. Il fera peut-être une mini préparation cet hiver pendant les vacances, pendant la grosse trêve. Mais pour moi, il y aura le vrai pic Mbappé en 2024. Et là, il va simplement finir la saison, enfin, finir l'année comme il peut, en statant, en s'améliorant un petit peu. Mais il y aura un Mbappé différent en 2024. Et c'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les années précédentes.
Rapidement, enfin, le truc, c'est que Kylian, il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'on a eu un match contre Marseille qui tout à coup a cassé cette image de Kylian dépendance et mine de rien, c'est rassurant. T'as rappelé un truc sur Kylian, c'est ouais, il est pas bon dans le jeu, mais bon, il a quand même vachement staté. Il est premier buteur de Ligue 1, je crois, même de manière assez insolente. Et après, il y a la problématique dont je parle, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec dans une situation où Kylian Mbappé a rarement de l'espace pour aller en direction du but. Il a toujours un vis-à-vis. On a du mal à créer le premier décalage, la première prise de vitesse qui lui permettrait de prendre son temps d'avance. Et ça explique un peu cela. Mais comme Réco, je suis pas inquiet. Il y a une part de méforme, une part d'adaptabilité tactique, de trouver vraiment ses marques. Ça va venir. Et en plus de ça, on n'est plus dans le stress dans lequel on était les années précédentes, où on était, oh mon Dieu, si jamais il n'y a pas Mbappé, on n'a rien. Là, on est, s'il n'y a pas Mbappé, on a des solutions. Il faut avoir Mbappé. Hein, c'est le meilleur joueur du monde. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut le bencher. Il faut avoir Mbappé. Mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Il y a plus de temps pour qu'il puisse revenir à son pic de forme. On peut le reposer de temps en temps, même si c'est compliqué de reposer Kylian Mbappé. Et il y a un truc qu'on sait chez Kylian Mbappé, c'est que de toute façon, stater pour lui, c'est primordial. Et il cherchera absolument à stater. Et même s'il sera décevant dans le jeu, on se rendra compte qu'à chaque fois qu'il sera sur le terrain, il sera à un but, parfois à deux buts. Et pour moi, il y a zéro inquiétude à avoir.
Quand on dit pas de prépa, c'est pas de prépa, pas de tournée estivale. Il se préparait quand même avec les joueurs sur le départ dans un second groupe avec des entraîneurs. Donc il a pas non plus rien fait. Ça m'inquiète pas non plus dans le sens où il a toujours eu des états de forme disparates sur une saison pendant un ou deux mois. Il va être un peu moins bien, puis d'un coup il va être ultra en forme pendant les deux mois suivants. Donc ça a toujours été le cas. Je pense pas qu'il y a un déficit prépa. Enfin ça me fait pas peur en tout cas.
Ok les gars, on va terminer sur les pronos. Clermont Paris Saint-Germain et du coup Valbas, on n'a pas oublié ta question, on va y répondre. Donc vos pronos et répondez à la question de Valbas pour terminer. Allez-y, je vous laisse décider qui commence.
3-1 pour Paris.
Ah bon. Ouais, je dirais 2-0 pour Paris ou 3-0. Je dirais 2-0 et Barcola titulaire, je pense, ouais.
3-1 et Barco titulaire tous les jours.
2-0, un match pas si facile, un match pas si plaisant à regarder, je pense, ça ne sent pas le gros match. Donc 2-0, pas sûr pour Barcola, si ça dépend si Mbappé débute.
Et, ouais, un truc qu'on n'a pas dit sur Clermont, c'est une équipe qui quadrille bien le terrain. C'est pas une équipe naïve et qui se fait facilement prendre en contre.
Ouais, ouais, écoutez, pour ne pas changer, je vais rester sur 3-1 Paris Saint-Germain. Voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, merci à ceux qui nous regardent sur Twitch, vous n'êtes pas beaucoup parce que vous êtes pour la plupart sur YouTube, donc merci de nous suivre sur Twitch. Et ceux que j'oublie tout le temps, je suis désolé les gars, à chaque fois je dis je vais vous envoyer un message et j'oublie. Tous ceux qui nous écoutent en podcast, vous êtes nombreux, je ne m'adresse jamais à vous, mais merci beaucoup. Abonnez-vous et likez sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et tout, ça nous aide énormément, donc continuez à nous suivre. Merci beaucoup et n'oubliez pas que ici c'est Paris.
Ciao, ciao, merci.